Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast de la rentrée, ou plutôt de la nouvelle année 2021. Déjà, on vous souhaite à tous et à toutes nos meilleurs voeux pour cette année, évidemment. Qu'elle soit faste de milliards de jeux, de santé, de vaccins et tout ce que vous voulez. Et évidemment, pour ce nouveau podcast numéro 549, je suis en compagnie de la rédaction, en tout cas une partie, avec Plume chez lui.
Ouais, salut, bonne année.
C'est vrai?
Ouais.
D'accord, ok, bon, écoute, si tu veux.
Hein. Et je tenais à dire que, comme Richard Berry, j'attends le vaccin.
Voilà. C'est vrai? Ouais. Tu l'attends de pied ferme ou pas?
Absolument.
Sur un bateau ou...
Ah oui, sur un bateau, les lunettes de soleil se mettent dans les cheveux, la chemise ouverte. Enfin, le truc normal quand t'attends un vaccin, quoi.
Ah oui. Thomas aussi, qui est en direct. Oh de...
Exactement, bonjour à tous. Moi j'attends Godot, plus classique.
Ouais. Ouais. Tu peux attendre. Hein.
Ah ouais, je sais, ouais.
Mais j'y crois. J'ai été le voir au théâtre, hein. C'était très bien.
C'est vrai? La version où il arrive au début de la pièce ou pas?
J'ai failli exploser de rire au tout début d'ailleurs, mais c'était tellement calme, j'en pouvais plus, mais bon, c'était bien.
Le mec est stressé quand il y a un truc qui se passe dans le calme. Ça reflète bien l'esprit à la rédaction quand tu es là, mon frère Phrase.
Tout à fait, bienvenue à Watt et Romain Mahut en direct du Japon.
Ça n'a jamais eu autant de sens que cette année de souhaiter bonne santé à tout le monde. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à une joyeuse révolution terrestre de la part de Thomas.
Thomas.
Calendosceptique.
le pourfendeur du calendrier grégorien.
Il y a les anti-vax, mais Thomas, un anti-calendrier.
Et, non, pas un anti-calendrier. Anti-calendrier, non, celui qu'on utilise.
Et je viens de penser à un truc en entendant Trace dire qu'il était stressé par le calme de la pièce de théâtre. J'ai cru comprendre qu'il y a une nouvelle série sur Netflix sur la méditation et la relaxation. Je pense qu'il faudrait faire un live stream de Trace en train de regarder cette nouvelle série pour voir ses réactions en direct.
Ceci dit, moi j'écoute régulièrement de l'ASMR avant de m'endormir, ça marche jamais. Hein.
Ah bah alors ça, c'est étonnant.
Ça ne marche
jamais. Sur le cul, phrase.
Toi, pour t'endormir, faut écouter du death metal ou un truc.
Exactement.
Comme ça.
Ouais, les versions les plus trash.
Tout à fait. Avec un peu de pogo juste avant de bien s'épuiser. Et bien parfait. Et puis bien sûr, Pouffier la technique, hein, qui vous souhaite aussi, j'allais dire de joyeuses fêtes, non, une bonne année. Et une bonne technique aussi de podcast. Messieurs, si on commençait, si vous voulez bien, par le win et le fail. Le win et le fail, ça va être quoi cette semaine, messieurs? On va commencer par le win, bien sûr, comme toujours, avec Thomas, qui va nous raconter un truc incroyable.
Eh oui, bah je vais vous le raconter, puisque c'est toi, mon cher Trace, qui nous en parlait. Le win de l'année 2020, c'est un petit peu le jeu phénomène, celui qui a largement tiré son épingle du jeu, et pourtant c'est un jeu qui est sorti en 2018, évidemment, il s'agit d'Among Us, le jeu phénomène que désormais tous les streamers en mal d'inspiration se plaisent à jouer encore et encore, selon un phénomène que notre petite Ève nous racontait avec beaucoup de malice. Et non seulement le jeu est devenu ultra populaire, mais il est devenu le plus populaire, en tout cas au mois de novembre dernier, en novembre 2020. L'organisme Superdata qui comptabilise énormément de choses et qui donc, à tes faveurs, mon cher Traz, nous apprenait que le jeu avait dépassé le demi-milliard d'utilisateurs actifs au mois de novembre, donc grosso modo 500 millions d'utilisateurs, toutes versions confondues, sachant que la version Switch n'était pas encore disponible à l'époque. Mais en tout cas, voilà, ça atteste d'un succès assez phénoménal de la part d'un jeu qui a été développé au début trois petites mains. Les trois petites mains de Joinville, ou Joinville-le-Pont pour les banlieusards qui nous écoutent, et qui du coup, comme on le sait, a finalement annulé la suite qui avait été un temps mise en chantier pour désormais se consacrer pleinement à Among Us et à son succès assez phénoménal. Et du coup, la question qui se pose et que tu nous posais déjà, mon cher Trace, c'est quel sera le succès de l'année 2021? Viendra-t-il d'un jeu sorti il y a déjà plusieurs années? On a évidemment hâte de le découvrir.
Tout à fait. Merci beaucoup pour ce win. Effectivement, Among Us, le jeu phénomène. On verra s'il perdurera dans le temps ou s'il y aura une suite de DLC, de contenu, de machin, etc. Évidemment. Le fail maintenant avec Plume. Là, par contre, c'est plus complexe, plus compliqué.
Oh là, non, c'est très chaud. Très simple. Tout est très simple.
On va dire plus chaud.
Voilà, on va dire que c'est beaucoup plus chaud puisque Cyberpunk 2077 donc, est sorti le 10 décembre dernier et est un petit peu, comment dire, le point de départ d'une situation qui commence à devenir très préoccupante pour CD Projekt dans son ensemble, puisque, rappelez-vous, nous avons testé la version PC, qui était, selon moi, absolument extraordinaire, même si elle n'était pas exempte de bugs, et on n'avait pas encore eu à ce moment-là la version console. Vous savez, comme ça arrive souvent quand on reçoit des jeux à tester, les éditeurs nous transmettent une version. Voilà, ils nous disent on a une clé pour telle version. Et bon, bah, on prend la version telle qu'elle est. Ça arrive pour tous les jeux, hein, que ce soit Assassin's Creed Valhalla, par exemple. On a eu d'abord la version PS4, ensuite la version Xbox One X. Et on fait ça pour la plupart des jeux en général. C'est toujours la norme. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on n'avait pas vraiment de visibilité sur la version PS4 et Xbox One, et on parle là des versions FAT, parce que quelques jours avant la sortie du jeu, on avait eu des aperçus des versions PS4 Pro et Xbox One X. Bon, normalement, on n'a pas à s'inquiéter plus que ça de ce genre de choses. On connaît la qualité des derniers jeux en monde ouvert qui sont sortis sur PlayStation 4, par exemple. On peut dire qu'un Red Dead Redemption 2 ou qu'un Assassin's Creed Valhalla ou encore d'autres se débrouillent très bien techniquement sur des machines sorties en 2013, quand les développeurs s'y penchent avec sérieux. Le problème, c'est malheureusement que les versions PS4 et Xbox One ont été complètement bâclées. C'est-à-dire que le jeu qu'on a reçu donc sur ces consoles-là, un peu après avoir pu boucler le test sur PC, c'était techniquement complètement à la ramasse, à savoir il y a des bugs d'affichage en permanence, des freezes quasiment tout le temps, des crashs genre presque tout le temps aussi. Donc d'avant Traz, je crois que toi t'y as eu droit.
J'ai pas recommencé parce que je me suis dit que c'était pas possible que je m'arrête au bout d'une heure et demie de jeu et que ça me plante complètement, que je sache plus quoi faire.
Donc des choses,
un méga patch avant de continuer, quoi, voilà, tout simplement.
Des choses absolument impossibles à accepter pour un jeu sortant comme ça, et sans compter le fait qu'il ressemble beaucoup plus à un jeu PS3 que à GTA 4 par exemple, sorti en tout début de gène PS3. Donc c'était assez problématique pour tout le monde, à tel point que il a fallu commencer à envisager de rembourser les acheteurs qui n'étaient pas contents, chose qui a aussi entraîné des tensions assez manifestes avec Sony et Microsoft, qui se sont retrouvés un petit peu presque forcés de devoir eux aussi rembourser. Malgré tout ça, le jeu s'est vendu à 13 millions d'exemplaires, mais il y a eu encore d'autres rebondissements. Il y a des patchs évidemment qui sont sortis pour essayer de régler les différents problèmes. Deux autres sont prévus pour ce mois-ci et pour le mois de février, mais en attendant, le jeu n'est toujours pas dans des bonnes conditions sur ces machines, même s'il tournera un peu mieux sur PS4 Pro, Xbox One X ou même PS5 et Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité, puisque ces versions-là, les versions next-gen, c'est pour cette année et pas avant, mais on ne sait pas encore quand d'ailleurs. Et puis, au-delà des problèmes liés à Cyberpunk, il y a eu aussi tout simplement cette affaire avec le jeu taïwanais qui avait été retiré de Steam l'année dernière, souvenez-vous, Devotion. Excellent jeu, excellent thriller psychologique qui était donc arrivé en début d'année 2019, et qui avait été retiré parce que les développeurs de chez Red Candle avaient malencontreusement laissé des placeholders qui insultaient le président chinois Xi Jinping et qu'ils traitaient d'abruti et de Winnie l'ourson. Donc c'était pas bien passé et le jeu s'était fait review-bomber avant d'être retiré. Et donc il aurait dû revenir durant le mois de décembre sur GOG. GOG, on rappelle, boutique en ligne qui appartient à CD Projekt, au groupe CD Projekt. Sauf que 2 heures à peine après que Red Candle ait signalé que le jeu allait revenir, enfin, eh bien, GOG s'est manifesté aussi sur Internet en disant « Bah non, en fait, on a eu trop de messages de joueurs nous disant qu'ils ne voulaient pas que le jeu revienne. Alors, il ne reviendra pas. » Vraiment, rebondissement assez époustouflant, voire abracadabrantesque. Parce que, tout simplement, on s'imagine que ce n'est pas 4 messages de joueurs qui ont poussé CD Projekt à faire marche arrière sur un jeu qui, finalement, n'a pas été si exposé que ça médiatiquement. Hein, ce n'est pas non plus une des grosses ventes de Steam sur la pauvre semaine sur laquelle il est resté en ligne. C'est, on n'en parle pas tout le temps non plus. Donc, on imagine que c'est plutôt des pressions et des... comment dire ?
Pressions, c'est une politique qu'il y a derrière.
Voilà, on imagine aussi, c'est... Ah tiens, si GOG venait à être... Dans le collimateur des autorités chinoises, sachant que c'est un marché qui est quand même très important, ce serait un peu difficile à accepter pour GOG. Donc voilà, c'est encore une chose pour laquelle malheureusement CD Projekt a été visé par les joueurs, par les consommateurs de manière générale, et ça ne semble pas vouloir se calmer, hein, puisqu'il y a eu... juste à la veille de Noël, des class actions qui ont été lancées, notamment en Californie, ce à quoi CD Projekt, évidemment, a répondu qu'ils allaient se défendre, allaient avoir des actions vigoureuses pour se défendre, mais quoi qu'il en soit, la réputation de tout le groupe polonais est largement entachée, et ça malheureusement, ça risque pas de s'effacer d'un coup de DLC magique, ou même avec les patchs qui sont prévus sur console.
Oui, parce d'ailleurs, l'action du groupe a vachement baissé, non, si
je dis pas. Ah oui, elle a chuté au moment où le jeu sortait.
Parce que, outre les problèmes techniques, est-ce qu'ils ont fait vis-à-vis du jeu contenant des remarques sur le président chinois, c'est l'attitude d'ensemble que CD Projekt a eu en marge, enfin avant la sortie de Cyberpunk, et son comportement juste après, qui sont inadmissibles.
Ah oui, complètement. Puisque eux, ils disaient qu'il n'y avait pas de problème avec les versions PS4 et Xbox One. Et au final, quand nous, on l'a reçu, tu dis qu'il y a un problème. Quoi. C'est une honte. Voilà,
Des développeurs en interne qui ont confirmé d'ailleurs que les messages d'alerte avaient été envoyés à qui de droit pendant justement le développement de toutes les versions et qu'en gros, tout le monde était parfaitement au courant de l'avancée du projet et de l'état dans lequel le jeu est sorti sur Current Gen.
Mais non seulement ça, c'est qu'en plus, nous, je me souviens des rumeurs concernant les versions Xbox One et PS4, on en avait écrites il y a longtemps, et ils avaient nié. Non, tout va bien. Et ils ont fait de la rétention d'informations. Ils les ont jamais montrées, ces versions. Genre, non, vous inquiétez pas, elles tournent bien pour ce qu'elles sont, etc. Mais ils les montrent pas pour autant.
Après, comme je disais, on peut pas être non plus à chaque fois suspicieux. The Witcher 3 est sorti dans un état qui était quand même largement respectable. Tu t'imagines qu'un studio qui a atteint cette envergure, parce qu'ils ont quand même beaucoup de monde, hein. Tu t'imagines qu'un studio comme ça va pas faire ce qu'ils ont fait là avec les versions PS4 et Xbox One. C'est, enfin, je veux dire, il y a aucun.
Il y a eu des alertes.
Ouais, mais tu peux pas, on peut pas le deviner. On peut avoir des alertes, mais on peut pas deviner que ça va être à ce point-là.
Ah non, on peut pas.
Ouais, mais honnêtement, ils sont tous fautifs aussi. Ils ont pas de QNS, sans déconner, de gens qui contrôlent les trucs. Bien Sony n'a pas contrôlé, Microsoft n'a pas contrôlé derrière.
Là tu soulèves.
C'est juste pas normal, c'est pas ceci. J'ai déjà visité le Q&A de Sony en Angleterre, je sais plus si c'était en Écosse ou je sais pas où. C'est hyper strict, quoi. C'est un truc de fou, hein. Oui, vas-y, pardon, Romain.
Non, mais tu soulèves un point totalement intéressant parce que ça aussi, ça fait partie de l'affaire et ça contribue à rendre hors d'eux Sony et Microsoft parce qu'en fait. Et ça, c'est une pratique dont on ne parle pas souvent, mais qui visiblement est assez répandue. Quand tu es un partenaire de premier plan de Sony ou de Microsoft, etc., la certification, ils acceptent généralement de passer outre.
Sur la promesse du patch day one, oui.
Si tu promets que les problèmes qui ne t'empêcheraient normalement de passer la certification seront résolus via un patch day one au moment de la sortie du jeu. C'est ce que là, en l'occurrence, c'était une sorte d'accord tacite qui peut exister entre les constructeurs et les éditeurs. Et là, Cyberpunk 2077 en a bénéficié. Sauf que les problèmes les plus critiques n'étaient pas résolus, loin de là, day one. Et quand on parle de certification, il n'est pas question de genre de simples bugs ou trucs comme ça. La certification, c'est par exemple des choses qui pourraient endommager la console.
Oui, c'est ça.
Des problèmes qui pourraient provoquer...
C'est critique, quoi. Vraiment critique.
Provoquer des crises d'épilepsie. Par exemple, c'est ce qui est arrivé avec Cyberpunk. Le jeu est sorti avec des scènes problématiques, sans avertissement à l'écran, destiné aux personnes épileptiques. Donc là, il y avait de gros problèmes qui ensuite peuvent mettre en cause, qui peuvent retomber sur Sony et Microsoft, et c'est là où ça coince. Donc d'un côté, vous avez la presse qui a été un peu ridiculisée à cause de la manière de tourner les choses de CD Projekt. Ensuite, CD Projekt balance un communiqué où ils disent « Non, non, on va vous rembourser sur le faites vos demandes à Sony et Microsoft », alors que Sony et Microsoft n'avaient pas été prévenus que CD Projekt allait faire ça. Donc, ils ont un peu été mis devant le fait accompli, qui leur est retombé aussi. En fait, il suffit, on en a fait des tonnes de news, d'articles là-dessus. Il suffit juste de prendre de chercher Cyberpunk sur Gameblog et de lire les news qu'on a écrites à ce sujet-là. L'affaire, elle est incroyable. Elle est sans précédent. Et je pense que ça va laisser des traces. Et pour le coup, je pense que c'est bien parce que là, en fait, CD Projekt, et là je parle de la direction, hein, je ne parle pas des développeurs, parce que les développeurs ont été bien conscients des problèmes. Ils ont certainement tout fait pour essayer d'empêcher que le jeu sorte dans cet état-là, mais ce ne sont pas eux les décisionnaires. Là, CD Projekt, ils ont tenté de pousser le bouchon le plus loin possible pour voir ce que les gens étaient prêts à accepter. Et comme toujours, par exemple, on a eu des cas avec les microtransactions et tout ça. Au bout d'un moment, il y a un pushback. Les gens disent « Non, là, vous êtes allé trop loin et on, c'est pas tolérable. » Et là, je pense que c'est des projets... Enfin, j'en suis sûr. C'est des projets qui sont allés beaucoup trop loin. Et donc, ça va certainement enlever l'envie à d'autres éditeurs qui auraient pu s'en inspirer de dire « C'est pas grave si on sort notre jeu dans un état catastrophique pour que le jeu soit disponible avant Noël. C'est pas grave, on balancera des patchs. » Et ben là, on a bien vu avec Cyberpunk que ça fonctionne pas comme ça.
Ce qui est obligatoire maintenant, c'est que... Enfin, ce qui est sûr maintenant, c'est que c'est plus possible pour aucun développeur, pour aucun éditeur de proposer un jeu qui soit maintenant, même ne serait-ce que, moyennement buggé. Je veux dire, c'est là...
C'est pardonnable, ouais.
Avec ce qui s'est passé là, c'est évident que la plupart des acteurs du jeu vidéo vont faire extrêmement attention. Quand on voit la chute de popularité, la chute dans les actions de la bourse aussi de CD Projekt, je suis EA, Activision, Ubisoft, Rockstar, je vois ça, mais je dis, mais ça ne doit jamais arriver chez nous, quoi. Genre jamais de tous les temps, parce que ce qui s'est passé, c'est un cas d'école, tout simplement, et ça a rejailli, comme tu le disais Romain, sur absolument tout le monde, sur toutes les strates. Les développeurs ont fait ce qu'ils pouvaient, et on peut pas leur rejeter la faute, parce que à mon avis ils ont été pressurisés comme c'est pas permis. Mais
les conditions de travail chez CD Projekt, on en a entendu parler à maintes reprises, elles sont loin d'être idylliques, hein. Ils en chient depuis des années, et il y a ça qui leur retombe en plus sur la tête, alors que c'est finalement pas eux les principaux fautifs dans cette.
Situation. C'est que à cause de décisions prises par la direction ou par les investisseurs, parce que les investisseurs aussi, ils ont dû pousser au cul pour que le jeu sorte le plus vite possible pour faire des rentrées d'argent.
Après, les investisseurs, ils faisaient partie de ceux à dire « Oui, mais les versions PS4 et Xbox One, vous ne nous les avez pas montrées. » Enfin, c'en est où
aussi.
Ils s'en inquiétaient hein, dans les conférences téléphoniques, etc. Ils posaient des questions à ce sujet-là. Hein,
Donc, c'est ce mélange-là qui fait que maintenant, oui, effectivement, il y a des développeurs qui ont trinqué. Nous, on s'est pris aussi pas mal, que je parle des journalistes, ou autres influenceurs qui auraient eu le jeu, qui se sont fait traîner aussi, traités de vendus, qui se sont pris des milliards d'insultes. Bref, ça a vraiment jailli sur tout. Et nous, du coup, même nous, tu vois, c'est des projects, on va peut-être avoir des relations avec eux qui seront assez différentes. On va peut-être se méfier un peu plus. Tu vois, les versions PS5 et Xbox Series X, quand elles vont arriver, on va peut-être prendre un peu plus de temps pour voir si le travail est bien fait. Et ça risque d'être le cas pour beaucoup plus de jeux, au passage. Et peut-être que c'est une bonne chose, finalement, que ce soit arrivé.
Ma réponse en plusieurs étapes. Déjà, je trouve que c'est étonnant, premier point, qu'aucune tête ne soit tombée chez CD Projekt.
Attends, ça va venir.
Que dans la direction, qu'il n'y ait pas eu de départ ou de démission ou de quelque chose, parce que ça, c'est quand même assez dingue vu la situation qui, là encore, est sans précédent. Et deux, en ce qui nous concerne, je pense, en tant que journaliste jeux vidéo, quand un jeu sort sur multiplateforme comme ça et qu'on nous propose qu'une version PC, qui plus est, en nous demandant au préalable la configuration sur laquelle va tourner le jeu...
Mais ça, c'est logique.
Ouais, la config, c'est un peu normal aussi.
C'est normal. Flight Simulator, on n'allait pas leur dire qu'on avait un PC qui date d'il y a 5 ans non plus.
Ouais, c'est ça.
Là, voilà, c'est des jeux, c'est normal. Quand tu as un PC, tu vas pas.
C'est inhérent au PC, tu n'as pas le
choix. Mais sachant...
il faut essayer d'envisager le fait que ça tourne dans les meilleures conditions possibles.
Oui, mais sachant qu'à côté de ça, il y a certains médias qui se sont vus refuser l'envoi du jeu sur PC parce que leur configuration n'était pas jugée assez costaude, ça montre qu'il y a quand même des choses bizarres. Déjà que, donc je pense que dans la mesure du possible, il va falloir exiger, enfin même si nous on peut jamais rien exiger parce qu'on est, s'ils veulent pas nous envoyer le jeu, ils nous l'enverront pas. Mais je pense qu'il faut être peut-être plus insistant à l'avenir sur le fait que, ok, vous voulez une version PC, qu'on teste une version PC sur une machine de guerre, mais à côté de ça, envoyez-nous au moins une version console. Qu'on puisse comparer d'entrée de jeu, quoi. Parce que là nous on a pu faire deux tests, un test PC, un test PS4 qui est malheureusement pour nous, mais on n'avait pas le choix, arrivé un peu après. Mais tu vois, sur Metacritic ou des trucs comme ça, il y a beaucoup de médias, il y a qu'une note qui est prise en compte, et c'est, ouais. Et comme c'est la version PC qui est arrivée en premier et que c'était des tests réalisés sur des machines de guerre, bah forcément les notes étaient bonnes, et donc c'est un peu trompeur. Et il y a OpenCritic qui a fait une lettre ouverte quand même vachement cinglante contre CD Projekt à ce sujet-là, où ils soulignaient qu'ils ont fait tout en ayant connaissance de la situation, et ils ont tout fait pour que le métacritique soit très élevé, que les gens sur console ne soient pas vraiment informés de la situation avant la sortie, que la presse soit à son insu complice de cette manipulation-là. Enfin, c'est la situation. Enfin, moi, je la trouve personnellement assez grave. Enfin, à l'échelle de notre milieu. Ah.
Pour en finir avec ce fail, on rappellera quand même que précommander les jeux, c'est peut-être pas toujours la meilleure chose à faire. Il faut peut-être attendre un petit peu aussi de pouvoir avoir les avis, les opinions d'un peu tout le monde, que ce soit sur les différentes machines aussi. Ça peut aider parfois à éviter des mauvaises surprises. Voilà.
Parfait. Bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire qui n'est sans doute pas encore terminée, parce que entre les class actions et les réactions des uns et des autres, ça risque de perdurer un petit bout de temps. Ouais. Donc je ne sais pas comment ça va se passer chez CD Projekt, comment ils vont
goûter. Vu qu'ils en ont vendu des caisses et que malgré tout la version PC est quand même...
Mais elle est quand même d'un bon niveau, il ne faut pas exagérer non plus. Quoi.
Elle est d'un excellent niveau, et quand tu regardes les différents retours à son sujet, ça se passe bien. Voire très bien parfois, mais après bon, c'est un studio PC, mais ça c'est pareil, hein. S'il n'avait pas sorti sur PS4 et Xbox One, peut-être que les joueurs leur en auraient voulu.
Bah, c'est sûr, etc. Et ça, c'est évident.
Mais bon, pour moi ils auraient dû rester sur PC.
Et ça soulève aussi le problème de transparence dont souffre l'industrie du jeu vidéo. Exactement. Et de ce
ça,
secret.
C'est un truc qui me saoule. D'ailleurs, je l'ai mis dans le dossier de Noël. C'est un truc, les NDA et compagnie. Là, c'est...
Ouais. Ouais. Et ce secret défense permanent sur le moindre sujet et tout, et oui. c'est fatigant.
T'as l'impression de bosser avec la NSA, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. On parle de jeux vidéo, les gars. Là. Alors, je sais que c'est une industrie qui pèse des milliards et des dizaines de milliards. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, les joueurs, ils veulent jouer, quoi. Ils s'en foutent que vous fassiez. Vous passez 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires aux compagnies, ils veulent des bons jeux, des jeux pas buggés, voilà, qu'on leur rende pas de la merde, quoi, parce que mine de rien, les jeux là sur Next Gen, ils sont de plus en plus chers, quoi. T'as des titres qui se vendent à 100€, etc. Voilà, tu as le droit de t'attendre quand même à un minimum de qualité, quoi. C'est la moindre des choses.
Exactement.
Là, voilà, tout ce qu'ils ont réussi, c'est créer de la méfiance supplémentaire chez la presse et chez les consommateurs. Donc, parce que la confiance, c'est difficile à gagner, oui. Mais c'est très facile à perdre. Donc, ils ont joué, et là, en l'occurrence, ils ont perdu.
Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur ce fail de fin 2020, mais qui va continuer encore en 2021 sur Cyberpunk 2077. Et il est temps maintenant de parler de quoi, à votre avis? Quel est le sujet? Puisque je ne l'ai pas annoncé en intro.
Bah,
on va parler de 2021.
Ah bah oui, c'est ça.
Ce qu'on attend en 2021. Enfin, tout. En tout cas,
D'ailleurs, tiens, tu sais quoi, je vais changer le titre.
À peu près.
Ce qu'on attend de la part de CD Projekt en 2021.
Exactement. Jingle. Eh bien oui, messieurs, 2021, un nouvel espoir, comme vous l'avez titré, n'est-ce pas, sur le conducteur. 2021, voilà, c'est l'année, la vraie next gen, entre guillemets, où on va enfin avoir, on l'espère, des stocks pour tout le monde, PS4, Xbox Series X et S.
C'est pas... Là, on enregistre le 5. Vous avez vu des stocks? Moi, je les ai autant vus que les vaccins, hein, personnellement. Mais c'est...
Ils sont aussi vite que les stocks de vaccins, en fait. Ouais. Pour
l'instant. Les stocks de consoles, ça pop, ça va et ça repart assez vite. Quoi.
Ça se trouve, c'est Olivier Véran qui les garde, les stocks de PS5.
Ah bah, c'est là, il va faire une déclaration bientôt pour dire que la PS5 et la Xbox Series X ne servent à rien.
Ouais, il les gère en bon père de famille, je crois.
Exactement. C'est pour ça.
Olivier Véran, si vous nous regardez, excusez-nous, hein, c'était facile.
C'est un gros gamer, il va être deg. Ouais.
Alors, ouais. Qui se lance justement sur cette nouvelle génération, le retour des stocks et compagnie
Bah, il est temps que ça commence. Voilà, la fin d'année, il y a quelques vénards qui ont réussi à se procurer les machines. On en fait partie, notamment avec Romain, Poufy. Alix aussi a réussi à avoir la sienne. Il dort avec.
Bref, la rédaction, il y en a quelques-uns qui l'ont eu.
Ouais, on a réussi à l'avoir avec. Moi, je pense qu'on a eu quand même beaucoup de chance.
Bah oui, mais vous l'avez précommandé déjà.
Non,
pas du tout.
Non, je commandais le 23 novembre, je crois. Comme le même
jour que Plumeau. Mais c'est, ouais. C'est de la chance, oui et non. C'est juste qu'on était comme. Bah, grâce à notre boulot, on est sur Internet tout le temps. Donc, on avait un œil sur les arrivées de stock. Et, moi, j'ai raté plusieurs tentatives avant de réussir. Hein. Ça a mis au moins 2 semaines avant de réussir à la commander. C'est comme ça. Par contre, oui, moi, je suis un cas particulier au sens où j'ai les deux.
J'ai la PS5 et
la série. Non, mais la S, je vais la ramener. Mais la série Z, je l'ai eu pour Noël et c'est pareil, ça n'a pas été facile. Mais bon, comme on n'a pas du tout d'idée des chiffres, là, c'est pareil, le secret des dieux, on ne connaît pas du tout les chiffres de vente, donc les quantités mises sur le marché, etc.
Vraisemblablement, ce serait 4 millions, un peu moins de 4 millions de consoles qui auraient été sorties par PlayStation. Mais c'est vrai qu'après, on n'en sait rien non plus et que là, ils sont tous très secrets.
Ça sera fin mars.
Oh oui, on les aura fin mars et on aura sûrement des tas de qualificatifs pour dire à quel point c'est le meilleur lancement de tous les temps, alors que tout le monde est en train d'attendre d'avoir une console chez lui.
C'est un sacré lancement hein, malgré tout.
Oui, malgré tout.
La merde qu'il y a eu.
En fait, c'est juste que la demande, elle est dingue. Mais ça, on en avait parlé en podcast bilan déjà. Mais en fait, oui, il y a des problèmes de stock, mais c'est juste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent acheter des consoles. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça se passe du côté de chez Xbox, mais chez PlayStation, il semblerait qu'ils n'ont jamais lancé une console avec autant d'exemplaires disponibles.
Et ce, malgré la production qui est quand même au ralenti, ce qui est quand même assez fou. Mais là, oui.
Au Japon. Ils viennent d'annoncer l'arrêt de la production de quasiment toutes les PS4. La seule qui va continuer d'être produite, c'est la PS4 Slim 500Go, donc le modèle de base. Tout ce qui est 1 Tera ou PS4 Pro, etc., ou console blanche, machin, tout ça, c'est fini. Et c'est pour faire de la place sur les chaînes de production, pour faire de la place à la PS5. Et donc, les quantités vont forcément augmenter. Et c'est toujours comme ça en fin de compte.
Mais ce qui est important en fait en 2021, c'est que ça commence à démarrer au niveau jeu surtout. Parce que la fin d'année, le lancement des machines est plutôt sympa, même si pour la Xbox One, la Xbox Series X, j'aurais vraiment du mal avec ça. On attend les grosses productions qui vont faire qu'on a besoin de l'acheter. Tu vois, même pas envie, juste besoin. C'est carrément. On se dit, tiens, c'est le jeu ou les jeux qui font que ça justifie l'achat de la machine. Halo Infinite, bon ben voilà, il est reporté à la fin de l'année, à l'automne. Ça sera à mon avis la plus grosse cartouche du côté de chez Xbox. Du côté de chez Sony, pareil, on a énormément de jeux qui sont prévus pour cette année. On parlera des jeux qu'on attend après, mais c'est encore une fois, il faut qu'on ait la sensation que outre Demon's Souls, qui est là pour l'instant peut-être le seul chez les constructeurs. À avoir une tête de jeu next-gen, puisque après c'est les éditeurs tiers hein, qui
en. Il y a Miles Morales.
Miles Morales aussi, mais est-ce qu'on peut dire de Miles Morales
Il n'est pas exclu. Enfin, moi, je te vois différencier un petit peu Sony et Microsoft sur le line-up de lancement. Moi, je mettrais plutôt dans le même panier, à savoir qu'on n'a pas de vrai killer app, de gros jeux exclusifs. Alors, oui, on cite Demon's Souls, qui est quand même le remake d'un jeu sorti il y a deux générations. Donc, toute proportion gardée, on est quand même loin du feu d'artifice qu'on est en droit d'attendre au lancement d'une machine. Et ça atteste aussi des transformations en fait qu'ont eu lieu en profondeur dans le milieu du jeu vidéo, mine de rien, puisque on n'a plus besoin de marquer à ce point-là un changement de génération. En tout cas, enfin, Sony et Microsoft viennent quand même d'en donner un petit peu la preuve pour faire un lancement assez triomphal, mine de rien. Les stocks épuisés en permanence l'attestent. Donc il y a une vraie transformation finalement de fond. Et moi, je trouve que d'un côté comme de l'autre, pour l'instant, c'est quand même assez désertique et assez famélique
en termes de contenu. J'ai vraiment l'impression qu'on a des consoles pour jouer au rétro gaming, quoi. Enfin, du rétro gaming, honnêtement.
Truc qui a été assez malin.
Il manque beaucoup, beaucoup de choses, quoi, dessus.
Un truc qui a été assez malin. Bon, après, là, une fois encore, je trouve qu'on s'est oublié la qualité des line-up de lancement des dernières générations, quoi. C'était pas des trucs de dingue non plus. Il y avait des exclus, mais bon, elles n'étaient pas incroyables.
Oui, mais c'était tranché.
Comment
tu peux parler aussi mal de Knack ? C'est inadmissible.
Non, mais à côté de ça, là où ils ont été assez malins d'un côté comme de l'autre, de mettre ce système de smart delivery ou de mise à jour gratuite des jeux, de certains jeux, parce que ça te permet malgré tout de jouer à des jeux dans de meilleures conditions et parfois des jeux que tu as peut-être ratés, par exemple, par le passé. Moi, j'ai pas mal joué là, pendant mon break à Mortal Kombat 11 Ultimate, qui a eu une mise à jour next-gen gratuite sur PS5 et sur Xbox aussi. Mais moi, en l'occurrence, j'ai joué à la version PS5. Et franchement, c'est super agréable, quoi. Enfin, le jeu, il n'y a plus de temps de quasiment plus de temps de chargement. Il est beau.
Oui, par contre, tu as le temps de chargement sur Xbox
Il est fluide.
Ouais, c'est un peu long.
Il y a eu plein de jeux dans ce cas-là.
Après, ils avaient tout intérêt à le faire, justement, dans la mesure où tu n'as quasiment rien à côté, en fait. Donc, tout ce qui te reste, c'est profiter des sorties récentes de la génération précédente qui est doucement en train de s'éteindre. Mais c'est une preuve supplémentaire que pour l'instant, c'est pas la folie.
Écoutez-moi, les mecs, dans les yeux et me dire, j'ai joué à tous les jeux. J'ai aucun retard.
Vous n'avez pas le monopole du jeu.
Expérience personnelle, pendant les vacances, j'ai pu enfin finir Ghost of Tsushima. Jouer dans des conditions du coup qui sont bien meilleures que sur PS4, je pense. Days Gone aussi, je suis dessus. Et en plus, j'aime.
Oh merde.
Mais sérieusement, j'aime vraiment beaucoup Days Gone. Je pense que c'est peut-être mon monde ouvert préféré de chez Sony. Pareil, jouer dans des conditions idéales. Et j'ose même pas imaginer les gens qui vont découvrir les autres jeux du PlayStation Plus Collection. Avec la PS5, peut-être en rétro-compatibilité, mais avec une fluidité de tous les instants. Je veux dire, les gens qui vont découvrir The Last Guardian sur PS5, ils vont avoir un confort de jeu qui est largement supérieur à ce qu'on avait.
S'il le patch. The Last Guardian ?
Ouais, j'avais lancé sans patch, ça s'est très bien passé.
Ouais, connecter la console, et lancer la version disque sans être connecté à Internet pour jouer en 60 FPS sans limite, en fait.
Exactement. Donc, c'est quand même très rigolo parce que du coup, à vous écouter, là pour l'instant, 2021, ça va être l'année du rattrapage, en fait.
Exactement.
Une console rétro-compatible.
C'est assez paradoxal, quelque part.
Une console rétro-gaming, quoi. C'est vraiment ça.
Mais du rattrapage dans d'excellentes conditions.
Exactement.
Oui, mais du rattrapage quand même. Oui.
Ouais, mais c'est du rattrapage bullshit, quelque part. C'est des jeux que tu connais déjà, que tu as déjà fini.
Non, regarde, moi, comme Plume, j'ai pas encore joué à Ghost of Tsushima. Il est installé sur ma PS5 et je vais bientôt me le faire et j'en profiterai à donf. Et j'ai vu, pour parler de la Xbox aussi, j'ai vu des gens poster des photos de Forza Horizon 4 sur Xbox Series X. Enfin, le jeu, il est incroyable visuellement. C'est peut-être un jeu qui est sorti précédemment, mais quand tu le découvres maintenant, tu prends une jolie claque, quoi. Donc oui, il y a de nouveaux jeux qui vont arriver, mais même en attendant, moi, je n'ai pas eu le temps de jouer à tout ce qui m'intéresse et pouvoir en profiter sur les nouvelles consoles, c'est top. J'avais pendant le test de la console, la Xbox Series X, j'avais commencé un peu Gears Tactics et franchement, j'avais trouvé ça super bien, quoi. Et donc, sur Series X, il rend vachement bien. Et donc là, je suis là aussi, j'ai hâte de m'y replonger. Donc, il y a vraiment des choses à faire et dans de super conditions, quoi. Enfin, c'est toi, Thomas, qui est resté sur PS4 fat depuis le début, t'as même pas eu de PS4 Pro. Enfin, quand tu vas passer à la PS5, rien que pour jouer à des jeux de la génération PS4, ça va te faire tout drôle. Bah, regarde, quand
c'est l'expérience que je recherche, tu vois. C'est pas spécialement ce qui m'intéresse. Et je trouve que c'est pardonner finalement assez facilement des lancements que je trouve pas ouf en termes de line-up de la part des deux constructeurs. Quand tu regardes avec quoi la Switch est sortie, même si c'était un jeu cross-gen aussi, je trouve que on leur laisse passer pas mal de choses finalement à Sony, à Microsoft.
Mais arrête Thomas, dans quelques semaines, quand tu auras ta PS5, tu auras le froc sur les chevilles comme tout le monde et puis c'est tout.
Contente-moi mon cher Plumeau, rien ne presse.
Moi je pense pas que c'est laissé passer parce que je nie pas du tout le fait que le line-up était pas dingue, tout comme le line-up de la Xbox One et de la PS4 était pas terrible non plus. C'est juste que, tu vois, pour le coup, je trouve que si tu compares le lancement de la PS4 et de la PS5, tu as plus d'intérêt à te procurer une PS5 au lancement qu'à te procurer une PS4 à son lancement. Parce que oui, tu avais Infamous Second Son ou Killzone, je sais plus quoi, et Knack. Mais franchement, c'était pas. Je préfère largement jouer à Ghost of Tsushima, rattraper Ghost of Tsushima dans les conditions actuelles, plutôt que de jouer à Infamous Second Son, tu vois. Ou alors.
C'est ce que tu avais dit à l'époque, hein, pour Ghost of Tsushima, il serait jouable sur PS4 et PS5.
Et malgré ça. À côté de ça, tu as quand même Spider-Man Miles Morales, tu as Astro's Playroom qui est
très bien,
qui est gratuit surtout.
Qui est gratuit, enfin qui est inclus de base dans la console. Et à côté de ça, sur Xbox, tu as quand même pas mal de jeux, même si tu as beaucoup de cross-gen. Enfin, le line-up n'est pas parfait, loin de là, mais il y a quand même. T'es pas malheureux si tu t'es procuré une console au lancement.
Oui, mais du coup, en fait, on attend les titres en 2021, en fait.
Attends 2022, mec, hein, ou fin 2021.
C'était ça l'idée, hein. C'était vraiment qu'on va pouvoir enfin démarrer en 2021 avec des jeux qui vont peut-être enfin taper dans la puissance des machines, parce qu'on nous a parlé des teraflops pendant un moment, il serait peut-être temps que maintenant on les utilise.
Les mettre à exécution.
Et moi, j'ai un seul problème vis-à-vis de ce qui peut se passer cette année et l'année prochaine, là je me projette un peu, c'est par rapport aux jeux, toujours aux jeux cross-gen, en fait. Je ne sais pas si...
T'as peur, hein.
En fait, la communication autour de ça, qui était déjà un peu problématique chez Sony, parce qu'au départ, ce n'était pas le cas, et au final, beaucoup de leurs jeux exclusifs seront aussi sur PS4. Moi, j'ai peur que ça freine parfois le développement de certains jeux et qu'on mette l'accent sur les versions ancienne génération de certains jeux. Là, il y en a un en particulier auquel je pense, c'est Halo Infinite. Pourquoi pas le consacrer uniquement à la version Xbox Series X et lâcher complètement la version Xbox One. Là, on a vu avec Cyberpunk que peut-être c'est pas le moment. Il faut arrêter de vouloir développer pour la génération d'avant, que maintenant il faut motiver les gens à passer à celle d'après. En leur proposant des trucs vraiment taillés pour la génération d'après. Moi, ça me fait peur qu'il y ait encore des jeux comme Horizon ou même God of War, si j'ai bien compris, qui puissent être envisagés à la fois sur PS4 et sur PS5 et Halo Infinite, comme je le disais aussi juste avant. Moi, c'est la crainte que j'ai par rapport à cette année.
Bah moi, je pense tout l'inverse, en fait. Je comprends ton inquiétude, mais je pense que très rapidement, en fait, on va se retrouver dans la même situation qu'on a eu ces dernières années avec justement un changement de hardware au milieu de génération, donc avec l'arrivée des PS4 Pro et Xbox One X. Je pense que très rapidement, en fait, on va se rendre compte que les jeux cross-gen, et j'imagine Horizon et ceux que tu viens de citer, on va vite se rendre compte qu'en fait, ils ont véritablement été optimisés pour les consoles de nouvelle génération et que ceux qui seront encore sur l'ancienne, quelle que soit la version de la PS4 ou la Xbox One qu'ils possèdent, vont se retrouver avec un jeu qui tout saute un petit peu ou qui va avoir du mal finalement à autant briller. Et je pense que l'accent va quand même rapidement être mis sur ce qui doit servir, mine de rien, un petit peu de vitrine technologique. Et tu parlais du cas d'Halo Infinite. ils auraient sans doute tout intérêt, même si on sait que la philosophie de Microsoft maintenant, c'est quand même de proposer un truc assez ouvert et qui justement regroupe une espèce de famille de consoles sous la bannière Xbox, ils auraient sans doute tout intérêt à basculer effectivement le développement exclusivement sur Series S ou Series X.
Ouais. Je pense que là, ils ont vraiment, pour utiliser une expression populaire, le cul entre deux chaises. Parce que d'un côté, Cyberpunk va laisser des traces sur ce que peut coûter et profondément coûter une version old-gen au rabais à une société. Surtout que dans le cas, par exemple, d'Halo Infinite, on nous rabâche depuis toujours que le jeu sortira sur Xbox One. Enfin, ils insistent vachement là-dessus. Ils l'ont encore fait récemment.
C'est bizarre, quand tu as autant besoin de le rappeler, c'est qu'il y a peut-être un problème quand même derrière.
Ouais. Non, sans blague.
Et d'un côté, oui, tu as la pandémie qui a frappé et qui a rendu vachement plus utile les PS4 et la Xbox One qu'elles ne l'étaient ne serait-ce que 6 à 12 mois auparavant. Donc tu peux difficilement, immédiatement en tout cas, surtout qu'à côté de ça, tu as des problèmes d'approvisionnement de consoles next-gen. T'as des jeux à sortir, mais pas assez de consoles à mettre sur le marché en parallèle. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un peu coincés dans deux situations. Et c'est un peu... tu as tort si tu le fais et tu as tort si tu le fais pas. Tu vois, c'est un peu, une situation compliquée pour les constructeurs actuellement. Mais dans le cas d'Halo Infinite, vu la polémique que le jeu s'est tapé, et ce qui s'est passé avec Cyberpunk, ouais, moi je serais d'avis de laisser la version Xbox One de côté. Après, tu as des solutions hein, pour ne pas trop heurter la sensibilité des joueurs Xbox One. Tu peux leur permettre de streamer la version Series X sur leur console. Hein. Microsoft a déjà envisagé du streaming de jeux next-gen depuis la Xbox One. Donc, tu aurais ce moyen-là de contenter tout le monde. À côté de ça, tu as tous les joueurs PC, tu as les joueurs Series X, tu as aussi les joueurs en streaming via les smartphones. Donc, tu as quand même potentiellement un parc de joueurs conséquents. Et on n'oublie pas que le leitmotiv pour Microsoft, c'est le Game Pass. Hein. Donc il y a des solutions, mais là ouais, pour Sony et Microsoft, il y a de nouvelles problématiques auxquelles ils avaient pas, enfin qui étaient difficiles à prévoir auparavant, et je me demande vraiment comment ils vont gérer tout ça.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu qu'on a une transition qui s'annonce sur la durée, en fait, on se doute que ça va prendre sans doute encore peut-être 2 ans pour qu'on bascule complètement. D'avance, on peut s'imaginer que le cycle de vie de ces nouvelles machines qui arrivent va être au moins aussi long que celui qu'on vient de connaître, sinon peut-être même un peu plus.
Ah, mais là, ça va durer 10 ans, là.
Bah, peut-être.
Facilement.
Parce qu'il y a une inertie à véritablement changer, en fait. Donc, est-ce qu'on ne va pas justement considérer que la nouvelle génération commence pleinement à partir du moment où on aura sur les deux machines des vrais exclus qui ne sortent pas sur la génération précédente et qui exploitent véritablement le potentiel technique des PS5 et Series X?
Ouais. Et il faut voir si en cours de route, ils ne nous font pas une Xbox Series X et une PS5 Pro, ce qui semble loin d'être improbable.
C'est à craindre, on est d'accord.
Ouais. Voilà, je vous ai coupé la chic. Plus rien à dire à ça. Drop the mic et hop, c'est fini.
Bon, on est gentil, mais il n'y a pas que les PS5 et Xbox Series X, c'est aussi les autres consoles, notamment la Switch. Qu'est-ce qu'elle nous reste Switch? Est-ce que la Switch, on aura la Pro comme les rumeurs le laissent entendre ou c'est du bullshit total parce que de toute façon, ils en vendent des paquebots entiers encore maintenant. Au Japon, ils ont dépassé la Super Famicom, je crois, en termes de...
Ils avaient dépassé la NES déjà.
Comment ?
Ils avaient dépassé la NES.
Ouais, là, ils ont battu la Famicom récemment, je crois qu'à la fin de l'année, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Faudrait que je retrouve les chiffres parce que je ne les ai pas en tête, mais c'est un carton.
Oui, mais c'est plusieurs dizaines de millions et ça continue effectivement à cartonner.
Mais ouais,
bah, merci Animal Crossing et Mario Kart 8 Deluxe.
Bah, ça,
merci la pandémie.
Ouais, merci la pandémie, c'est triste à dire, mais merci la pandémie.
Oui. Bah, comme Steam, comme machin, comme tout le monde. Hein, comme toutes
les malheur des uns, etc.
Et tu vois, j'y pensais hier quand le Royaume-Uni a annoncé un nouveau confinement total. Même si la situation est mondialement catastrophique, je pense qu'au fond d'eux, il y a certains businessmen chez les entreprises du jeu vidéo qui doivent dire, bah c'est cool quoi, c'est cool pour nous parce que
c'est con, mais oui c'est vrai. Hein.
ça leur a tellement profité, alors qu'il y a plein d'industries qui tirent, qui font grise mine, et même pire que ça dans certains cas, le jeu vidéo se porte, c'est presque sans précédent, tellement
ah bah là, oui, oui.
Va bien. Donc,
alors, jusqu'au alors, moment alors où Switch, ça impacte. Attends,
juste coupe pour les chiffres. La Switch, c'est 17 340 000 au total.
Au Japon.
Au Japon, ouais.
Au Japon. Et c'était 15 millions et des poussières pour la Super Famicom. Donc elle l'a dépassé largement de 2 millions. Quoi.
C'est pas étonnant.
J'ai vu des photos du Japon où ils montraient que les consoles commencent à revenir en stock de manière un peu normale au Japon. Donc, oui, ils vont pouvoir continuer à en vendre. Après, il y a quand même pas mal d'inconnus sur le line-up de 2021 pour la Switch. Et est-ce que cet inconnu est lié au fait que Nintendo a un petit peu des problèmes de développement sur certains titres, ou est-ce lié au fait qu'ils ont une Switch Pro à annoncer et qu'ils attendent de montrer la nouvelle machine pour donner plus d'infos sur ces jeux avec des versions éventuellement boostées de ces titres-là, tu vois. Par exemple, un Metroid ou un Bayonetta, je les imagine bien être un peu des jeux mis en avant sur cette potentielle Switch Pro.
Mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, Romain ? C'est ça le truc. Est-ce qu'on peut considérer que Nintendo a vraiment besoin d'une Nintendo Switch plus puissante ?
À court terme, non. À moyen terme, oui.
Oui.
Moi, je pense qu'ils en ont besoin plus que certains ne le pensent. Parce que oui, là, pour l'instant, ils continuent d'en vendre, etc. Mais une fois que tous les gens auront acheté Animal Crossing ou des trucs comme ça, ils vont vouloir continuer à vendre des consoles et à vendre des jeux. Et sauf que plus le temps passe, moins tu vas pouvoir te reposer sur des portages de vieux jeux d'éditeurs tiers, parce que techniquement la console sera plus capable de suivre. Et ça sera et là encore l'impact de Cyberpunk, parce que des versions totalement sacrifiées pour réussir à tourner sur une machine pas assez puissante, la tolérance, elle va être quasiment nulle maintenant.
Ah, mais quand tu vois des portages comme The Witcher 3, qui mine de rien, même s'il est flou, est quand même super réussi, Doom Eternal, qui s'en sort, mais super bien aussi. Il y a plein de portages, mine de rien, de jeux. Et
oui, on sent qu'on atteint les limites. Hein.
Voilà, mais au bout d'un moment, ils n'y arriveront plus à faire ça.
C'est là que le cloud gaming, qui est présent pour d'autres jeux, notamment Hitman 3, qui va sortir ce mois-ci, peut aussi servir. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin d'avoir énormément de patates dans la machine, qui est déjà une machine qui profite aux indés de manière extraordinaire. Tous les indés qui sortent des jeux dessus vont dire que c'est 3 ou 4 fois meilleur en termes de vente. Si tu n'as même plus besoin d'avoir de la patate dans la machine, mais juste une bonne connexion, mine de rien, la console, elle se suffit à elle-même, au moins pour 2021. Après,
c'est ça, pour fait ça que tu parles de court terme.
Ouais, voilà. Je pense qu'en 2021, ce ne serait pas forcément la meilleure affaire à faire.
Je pense qu'on oublie un truc, c'est que là où nous, on estime effectivement avec les ventes, non seulement de Switch, d'Animal Crossing, de Mario Kart 8 Deluxe, que tout va bien pour Nintendo, quand on regarde les assemblées des actionnaires qui peuvent poser des questions à Furukawa, aux responsables de l'entreprise, on voit que la préoccupation, elle est toujours la même, c'est de maintenir en fait un certain niveau de vente. Et du coup, les actionnaires de Nintendo, ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas envie que les volumes commencent à baisser, même si globalement tout va bien. Donc, je pense qu'il y a aussi pour Nintendo un besoin de maintenir un niveau qui est quand même extrêmement élevé pour cette console. Et pour ça, il faut bien que justement tu donnes le change et que tu promettes des choses. Et je pense que c'est là où justement ça va être une année qui va être assez stratégique pour eux, parce que ils vont devoir donner des gages pour, on va dire, les 2-3 ans à venir, en fait, pour le cycle de vie qu'on imagine de la Switch. Et donc, il va falloir réussir à ce qui reste crédible comme, justement, un constructeur qui soit au niveau, qui va pouvoir continuer à rivaliser avec de nouvelles bécanes qui techniquement, surclassent leur console plusieurs catégories. Plusieurs générations. Et on parlait des portages. On parle effectivement de Witcher 3, etc. Mais donc, des jeux qui rendent gêne, ça va être de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on va basculer sur d'autres titres beaucoup plus ambitieux qui vont se retrouver effectivement très à l'étroit sur Switch. Je pense que miser sur le cloud gaming pour se dire c'est une manière de compenser justement les faiblesses techniques de la console, vu son autonomie, etc., ça me paraît pas être une solution véritablement satisfaisante, en tout cas à grande échelle. Donc Nintendo va devoir donner, je pense, des gages vraiment pour nous nous permettent de penser que la console va continuer à exister sous une forme ou sous une autre sur au moins les 2-3 ans à venir.
Surtout que j'imagine assez mal Nintendo, par exemple, pour prendre l'exemple d'Animal Crossing, faire une campagne marketing de l'ampleur de celle d'Animal Crossing pour un jeu uniquement disponible via le cloud. Tu vois,
Bien sûr.
Que t'as des, à la fin de la pub, tu as du packaging, tu as des... Enfin, dans les catalogues de fin d'année que tu reçois des grandes surfaces ou des magasins de jouets, etc., bah, tu as des, des jeux en boîte. Et Nintendo, même si les tiers, eux, peuvent décider d'utiliser ce système-là pour mettre leurs jeux sur Switch, j'imagine assez mal Nintendo faire ça. Et même si Nintendo, Microsoft et Sony ne s'adressent pas forcément... Si, en partie, ils s'adressent au même public, mais ils n'ont pas forcément la même stratégie ou la même façon de faire, etc. Au bout d'un moment, ils vont finir par souffrir des comparaisons. Tu vois, quand déjà, là, c'est un peu délicat, mais quand les Microsoft et Sony vont balancer leurs jeux vraiment next-gen et qu'à côté de ça, si on te balance un Breath of the Wild 2, aussi ingénieux soit-il en termes de gameplay, etc., avant de pouvoir découvrir le gameplay, parce que tu vois, ce sont des vidéos. Et si les vidéos que tu vois sont du niveau du Breath of the Wild original, qui était déjà dépassé techniquement quand il est sorti...
Oui, mais artistiquement, il est tellement impeccable que de toute manière... Enfin, c'est là qu'on arrive aussi à une espèce de balance entre artistique et technique. C'est-à-dire que Nintendo, tu peux aller rechercher, et toi qui es un grand joueur de Captain Toad maintenant, qui est un jeu pourtant sur lequel, je me souviens, on en discutait, je te disais c'est génial, tu me disais oui, mais bon, Captain Toad, etc.
Moi j'adore.
Voilà, il y a le
Captain Toad, je trouve artistiquement plus intéressant que Zelda. Ah, voilà. Je le trouve plus propre que Zelda.
Artistiquement et ludiquement et techniquement, c'est pas dans le même, forcément dans le même côté. Et Nintendo, c'est depuis toujours en fait, nous a prouvé, je vais pas dire depuis toujours, mais au moins depuis la fin de la comment dire, de la guerre du graphisme, enfin qu'ils ont eux-mêmes initié, ils ont toujours prouvé qu'ils arrivaient à s'en sortir. Mario Galaxy 2, je suis désolé, quand ils repensent, même le Galaxy 1 aussi, quand ils repensent, c'est des jeux qui sont quand même des jeux PS3 360 plus et encore, et qui sont, mais
non, tu veux dire PS2,
ah, oui pardon, PS2 Xbox plus, mais qui sont incroyables. Et ils arrivent à chaque fois à trouver des petites astuces de programmation qui font que le jeu sera beaucoup plus beau à l'œil. Je suis obligé de parler de Luigi's Mansion 3. Excuse-moi, mais Luigi's Mansion 3, tu me dis que c'est un jeu Switch. La première fois que je le lance, je ne te crois pas. Je te dis que pour moi, dans mon truc, j'avais l'impression d'avoir un jeu limite PS4, début de gen PS4.
C'est vrai qu'il aurait pas fait...
Ils ont toujours quelque chose en plus... je te dis, ludiquement et artistiquement, qui fait que tu n'en as pas forcément besoin de la surpuissance technique.
Voilà, Animal Crossing, c'est pas un foudre de guerre, et pourtant, les jeux cartonnent parce que c'est une proposition qui tombe à pic.
Pour Mario, l'exemple de Mario Galaxy 1 et 2 et Luigi's Mansion, je suis totalement d'accord avec toi, mais Zelda, je le mets à part. Moi, je me souviens, j'ai essayé d'y jouer un petit peu. Après, là encore, Zelda, moi, c'est pas une série que j'apprécie. Enfin, ce sont pas des types de jeux qui me plaisent.
Mmh, bien sûr.
Mais j'ai joué un petit peu à Zelda au début. J'ai couru dans une prairie totalement vide pendant 20 minutes. C'était aliasé, mais c'était limite désagréable à l'œil. Il n'y avait pas un PNJ. Enfin, c'était, même artistiquement, c'était... Alors après, peut-être que plus loin dans le jeu, ça devient complètement dingue. Mais, ou même les quelques cavernes dans lesquelles j'ai été. Enfin, artistiquement, je n'ai pas pris une claque de ouf. Et je trouvais que le jeu était dépassé. Là où Zelda se démarque, c'est par le gameplay.
Et pourtant, il s'écarte justement des épisodes précédents. Enfin, si tu prends ceux qui sont sortis avant, il propose autre chose, même sur le pur plan artistique.
Et même sur le plan technique, excusez-moi, mais la physique de Zelda Breath of the Wild, elle est absolument atteinte par aucun jeu en monde ouvert aujourd'hui. Aucun.
Tout à fait.
La physique, elle est dingue, je suis totalement d'accord. Mais visuellement, c'était super pauvre. Enfin, pour ce que j'en ai vu. Alors après, je veux bien vous croire, si plus loin dans le jeu, ça devient incroyable avec des univers chatoyants et des personnages
La technologie de Cyberpunk, c'est sûr. Mais
au début, tu vois, je trouvais Mario Galaxy, par exemple, visuellement bien plus plaisant d'entrée de jeu que Zelda Breath of the Wild.
Oui, la manière de rentrer dedans est différente aussi. Hein, Mario, il faut que tu jump in directement, tu vois, il faut que ça commence tout de suite. Là, Zelda, il faut poser les bases de l'univers et donc il faut un petit peu de retenue, on va dire, au début. Voilà, c'est quelque chose qui vient progressivement. Mais moi, je suis d'accord avec Plumeau sur le plan purement artistique, sur la direction artistique. On voit que leur jeu même s'ils ont parfois une génération ou deux de retard, arrivent en tout cas dans le temps à rester plus pertinents visuellement. Pour le Wind Waker qui date de 2002, qui reste un jeu visuellement superbe avec une proposition assez tranchée. Et c'est vrai qu'ils réussissent quand même à chaque fois à trouver le truc qui fait que ça marche bien.
Pour Wind Waker, je suis d'accord encore, mais je suis là aussi d'accord. Moi, c'est vraiment Breath of the Wild que je classe à part parce que visuellement, enfin, c'est pour moi, il est pas digne. Il est visuellement, je parle uniquement sur ce point-là, il est pas digne de la hype et de la popularité dont il bénéficie à mon avis.
Ouais, mais après, pourtant, c'est un des épisodes les plus vendus.
C'est le meilleur peut-être le meilleur de tout Zelda depuis bien longtemps. Mais tout ça pour dire que voilà, quand t'as ces atouts-là de ton côté, pour revenir au sujet principal, peut-être qu'avoir une Switch Pro ou 4K dans l'année 2021, moi à mon sens, c'est pas forcé que ce soit pour cette année, quoi. Voilà, c'est tout.
Non, mais tu sais, t'as une sorte de flottement. La popularité dont tu bénéficies, une fois qu'elle est lancée, elle va continuer encore pendant un temps. Mais au bout d'un moment, même si tu es encore au sommet, c'est à ce moment-là qu'il faut amorcer la suite et proposer le reste pour éviter justement une chute brutale dont tu vas pas forcément avoir, que tu vas peut-être avoir des difficultés à remonter. Donc c'est vraiment maintenant, c'est dans les 12 mois à venir que Nintendo va vraiment devoir clarifier sa stratégie sur l'avenir pour justement éviter de se retrouver dans une situation compliquée.
D'autant plus qu'on ne sait pas ce qui sort véritablement en 2021 chez eux sur les jeux first party. On a des idées, on a des intuitions, mais en termes de planning de sortie de jeu, pour l'instant, c'est quand même assez compliqué.
Parce que tu vois, par exemple, à la génération Super Nintendo, profiter de cette popularité, ils ont trop tiré sur la corde avant l'arrivée de la N64. Ils ont, pour le coup, un peu trop attendu. Aussi chouette soit la N64, qui est une de mes consoles préférées, elle est arrivée trop tard.
Peut-être.
Et donc, la configuration était différente, puisque la nouvelle génération, grosso modo, s'est faite autour de 18 mois chez tous les constructeurs. Là, Nintendo, la Switch a déjà 3 ans et demi d'existence au moment où on parle. Donc, eux, ils ont un autre défi à relever maintenant, c'est de réussir à exister avec une console qui a déjà quelques années dans la tronche face à de nouvelles machines de guerre chez la concurrence. C'est une configuration qui est vraiment différente en plus pour eux cette fois-ci.
Bon, bref, tout ça pour dire que ça, c'est pas... Bon, bref, on a tous des avis très différents par rapport à ça, par rapport à la Switch Pro ou 4K qui pourrait arriver cette année ou pas, qui est annoncée depuis...
Dans la PDI, de toute façon, je m'en fous.
Depuis 97, elle est annoncée. Ouais. Donc voilà, on verra bien si c'est vrai ou pas.
Moi, j'entends la console à manivelle, la Playdate.
Ouais, c'est vrai.
Mais je pense en tout cas qu'ils vont être obligés de véritablement marquer le coup cette année, d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec une nouvelle console ou pas, mais ils vont devoir véritablement faire quelque chose pour essayer de garder cette lancée dont parlait Romain et éviter de... ne serait-ce que de stagner au niveau de vente.
Tu voulais rester sur le hardware, Trace, si j'ai bien compris?
Oui, parce qu'on attend éventuellement aussi un PSVR 2 qui se fait décidément bien attendre aussi. Est-ce que Sony va se lancer ou pas? Est-ce qu'ils vont se dire que ça ne sert à rien pour l'instant? On a tous eu le petit câble gratos pour brancher la PSVR à la PS5. Moi, je l'ai reçu franchement hyper vite.
Moins d'une semaine.
Ouais, pareil. J'ai pas de PS5 encore, mais voilà, au moins ça c'est fait. Donc je me dis que s'ils ont fait ça, c'est que ils vont peut-être faire perdurer encore le PSVR premier du nom, histoire de dire que l'achat en valait quand même la peine, quoi.
Bah, surtout qu'il est proposé à un prix tellement accessible que c'en est presque, c'est presque irrésistible en fait.
Quand oui, ça va.
Bah non, mais c'est vrai. C'est maintenant, tu t'en as un pour 200 euros, tu peux jouer à des jeux extraordinaires. Thomas, il peut prendre celui de la rédac quand il veut, de toute manière. Donc,
très bien. Bah écoute, je m'embarque alors.
Voilà, mais je veux dire, quand tu as des jeux comme Astrobot Rescue Mission, qui reste une des meilleures expériences possibles en réalité virtuelle, quand tu as Wipeout, et j'en passe, vraiment, il y en a beaucoup. Hein, l'expérience Batman aussi est fantastique.
R7.
Resident Evil 7, qui est un jeu complet de Survival Horror en
Tetris Effect.
Voilà, tu as énormément de trucs. Donc là, encore une fois, un PSVR 2, est-ce que c'est vraiment indispensable pour cette année, sachant que les gains, ce serait de la résolution et du framerate
moins amélioré. Câble.
Oui, ce ne serait pas les câbles aussi.
Alors voilà, oui. Il y aura peut-être moins de câbles. Et peut-être autre chose que des PlayStation Move au bout des doigts aussi.
Exactement.
Pour essayer d'avoir un contrôle un peu amélioré. Il y a eu plein de brevets de toute façon, donc tout est possible pour 2021.
Ouais, mais est-ce que pour ça, il ne faut pas attendre qu'on ait un parc de consoles installées qui soit suffisant justement pour proposer un périphérique de ce type-là ? Même si maintenant on sait ce que c'est que la réalité virtuelle selon Sony, ils ont réussi à vendre des millions de PSVR première version, mais au moment surtout où tu as demandé aux gens de claquer au moins 500 balles pour justement changer de machine avec des jeux, etc., leur redemander si rapidement derrière, même si tu as toujours des technophiles, des early adopters, en tout cas de remettre la main au portefeuille pour s'acheter un nouveau casque aussi pratique, sans fil et tout ce que tu veux soit-il, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement le moment où il faille dégainer, d'autant plus qu'en face, chez Microsoft, a priori, on n'est pas prêt de voir quoi que ce soit en termes de réalité virtuelle. Donc, pour le coup, Sony a plutôt un boulevard, en fait, et je pense, tout intérêt à temporiser et à attendre, à d'abord vendre des consoles, à d'abord l'installer, avant de commencer à communiquer sur ce nouvel accessoire, sans doute très sympathique, mais aussi très coûteux, qui vont devoir demander aux joueurs d'acheter à nouveau.
Mais de toute façon, c'est clair et net. Hein. Je me souviens plus de la date exacte, mais ça a plus d'un an. Même peut-être largement plus d'un an, Sony avait avoué à demi-mot que le PSVR 2 était prévu et ils avaient dit clairement qu'ils ne le lanceraient pas en même temps que la PS5 parce qu'ils ne voulaient pas demander aux gens de dépenser trop d'argent en une seule fois. Et ils ne voulaient pas rendre l'offre un peu floue, etc. Donc ça, c'était clair et net que ce n'était pas pour le lancement. Et moi, je pense même que ce n'est pas pour cette année. Je pense que ça viendra l'année prochaine. Après, pour rebondir sur ce que Traz disait tout à l'heure, il faut garder à l'esprit que vis-à-vis de la PS5, le PSVR actuel, c'est considéré comme quelque chose de rétro-compatible. C'est pas considéré comme un accessoire à part entière de la PS5.
Oui, d'ailleurs, il faut utiliser la caméra de la PS4.
D'ailleurs, il faut utiliser la caméra de la PS4, il faut utiliser l'adaptateur de câble, et même dans certains cas, il faut utiliser une DualShock 4. Parce que j'ai testé pour vous, parce que moi, je fais partie de ceux qui ont utilisé
sur
le PSVR
sur
PS5. Par exemple, quand j'ai voulu lancer Astrobot, j'avais ma DualSense dans les mains. Et le premier réglage, il repère le casque, les lumières qu'il y a sur le casque, mais il repère aussi la light bar de la manette. La manette DualSense, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Donc, il a fallu que je rebranche. Heureusement que j'avais une autre manette DualShock 4 qui n'était pas rangée dans le carton avec la PS4. Donc, il a fallu que je rebranche une DualSense pour pouvoir jouer. Et donc, c'est... Il ne faut pas s'attendre... Oui, alors certains jeux comme Blood and Truth, eux ont reçu une mise à jour un peu à la manière de Ghost of Tsushima, etc. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que des jeux PS5 sortent sur le premier PSVR. De toute façon, après avoir joué un peu à la PS5 sur un écran 4K, quand vous mettez le PSVR, la résolution, ça vous fait un choc. Hein.
Un sacré gap arrière. Ouais.
Ah, c'est quelque chose. Donc, le PSVR sur PS5, c'est uniquement pour de la rétrocompatibilité. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose de plus que ça. Pour de vraies nouvelles expériences en VR, il faudra attendre le PSVR 2 quand il sortira. Et ça, je pense que ce n'est pas avant minimum l'année prochaine.
Parce que ça sera aussi du first party et ils ont déjà assez de mal à sortir du first party justement tel quel sur même sans accessoires. Et effectivement, je pense qu'en termes de planning, de gestion, de développement, etc., ils ont tout intérêt à attendre, je suis d'accord avec toi, au moins 2022 pour se lancer là-dedans.
Après, ça soulève des questions à d'autres niveaux. Par exemple, il y a Resident Evil Village qui sort l'année prochaine, enfin cette année maintenant, dans quelques mois. C'est un jeu next-gen. Enfin, tel qu'il est présenté actuellement, c'est un jeu next-gen. On sait que RE7 était compatible réalité virtuelle PlayStation VR et que c'était top. Est-ce que... Alors, parce que là, ça serait un peu compliqué, parce que le jeu est next-gen, mais le PSVR est old-gen. Donc, comment ferait-il pour proposer un mode VR pour un jeu comme celui-là ? Donc, ça... Et il y a aussi d'autres jeux, je crois... Hitman, c'est Hitman qui sera compatible en réalité virtuelle, etc.
Absolument. Il est compatible PlayStation VR dès sa sortie.
Donc il y a des et il est cross-gen ou il est juste next-gen Hitman, je me souviens.
Ah, il est cross-gen, il sort aussi sur sur les autres machines. Voilà,
dans ce cas-là, alors ça rend les choses
dans mes souvenirs. Hein.
Mais donc oui, il va y avoir des je pense qu'il va y avoir potentiellement des sorties sur PSVR cette année, mais ça sera le PSVR d'origine. Et vis-à-vis des jeux next-gen, je me demande comment ils vont réussir à faire ça, parce qu'il y aura, ça voudrait dire qu'il y aurait une partie next-gen et une partie old-gen dans un même jeu, donc c'est curieux, bon, à voir.
Exact. Bon, et si on finissait justement ce podcast 549 par une petite piste de jeu, de ce que vous attendez, de ce qui est potentiellement sortir cette année.
Je voulais juste en placer une vite fait, si ça te dérange pas. Sur d'autres choses qui pourraient arriver cette année, qui seraient pas mal chez les constructeurs, ce serait des réponses à l'adaptative contrôleur de Xbox chez les autres. Ce serait pas mal qu'on s'y mette aussi chez Nintendo, même s'il existe une solution. Je me souviens que Romain avait fait une news il n'y a pas très longtemps. Il commence à y avoir des solutions
chez Nintendo.
Voilà. Ça serait bien que tout le monde commence à s'y mettre, et pas que dans les jeux. Hein, chez Sony.
C'est ça, parce que si tu prends Naughty Dog, dans les jeux, ils ont quand même. C'est le cœur.
C'est pas les seuls. Hein.
Pas les seuls, bien sûr.
Ubi s'en sort très bien aussi maintenant. Bref, il y a toujours plein de choses qui se passent, mais ce serait bien maintenant que ça devienne un peu la norme. Et puis, il ne faudrait pas oublier non plus qu'en 2021, on peut espérer quand même un retour des rassemblements. Ce serait pas mal qu'il y ait à nouveau.
Ouais, à la fin de l'année, hein, je pense. Hein.
On peut l'espérer, mais est-ce que c'est réaliste pour autant ?
J'y crois pas une seconde.
Là, ça change.
Moi, j'ai du doute aussi.
Certainement, par exemple. Premier mois, j'y crois pas une seconde.
Pour l'E3, par exemple, prenons l'exemple de l'E3. L'E3, c'est en juin. Généralement,
je laisse, c'est l'apocalypse là-bas.
Oui, mais je parle juste pour notre exemple précis en tant que rédaction de Gameblog. Généralement, nos voyages à l'E3, on commence à les préparer dès janvier. Nous, on s'y prend assez tôt. On fait nos réservations assez vite pour les prix des billets d'avion, pour que notre appart soit dispo, etc. Là, je me vois mal faire la moindre réservation pour Los Angeles. En janvier 2021. Donc, il y aura peut-être des événements, mais ça serait peut-être plus la Gamescom, le TGS, etc. Mais c'est compliqué. Là, prévoir des salons cette année, c'est quand même assez délicat. Et moi, à titre personnel, je me sentirais plus à l'aise pour partir faire des salons si j'étais vacciné. Là, en l'état actuel, sans vaccin, sans rien, je me vois mal prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde et rester enfermé 12 heures dans un avion avec d'autres gens potentiellement malades. C'est compliqué.
Mais j'attends que jusqu'à présent, seule la Gamescom a affirmé que l'édition 2021 se tiendrait en présentiel de manière classique. En tout cas, ils l'ont dit officiellement. Donc, on n'y croit pas, ça arrivera pas, on verra bien à la fin du mois d'août. Mais eux, en tout cas, semblent vouloir y croire. Et un salon à la fin du mois d'août, ça nous laisse peut-être espérer d'ici là atteindre, aller 2 ou 3 000 vaccinés en France. Et peut-être que du coup, on en fera partie et qu'on pourra traverser le Rhin pour aller à la Gamescom et se retrouver dizaines.
Il y en a déjà 3 000 en France, là, ça y est, ça commence à se mettre en place.
Non, mais ce serait bien en fait qu'il y ait ces rassemblements. Je pense aussi à la GDC, au TGS évidemment. Mais
pas trop de rassemblements, pas trop de monde, ça sert à rien.
C'est surtout pour les développeurs, je pense surtout à eux en fait.
Tout à fait.
Que les développeurs puissent rencontrer des partenaires éventuels, les journalistes aussi, parce que c'est important aussi pour un développeur d'avoir des retours de gens qui passent leur journée à jouer comme nous et qui ont un peu de recul. C'est vraiment pour toute l'industrie que ce genre de choses est important et que ce serait pas mal effectivement.
Public, dans ce cas-là, que les pros, tant mieux.
Pourquoi pas, ouais.
Mais ce que Plume dit est très important parce que c'est la partie qu'on voit pas généralement, bien même nous quand on y est, c'est pas ce qu'on voit le plus, c'est tous les rendez-vous justement en backstage des développeurs qui cherchent des éditeurs, qui pitchent leurs jeux, qui espèrent trouver aussi des distributeurs pour des versions étrangères, des trucs comme ça. On sait à quel point le contact humain et le fait d'en discuter dans des conditions particulières peuvent fluidifier justement ce genre de discussion et de transactions.
Transactions, sous la table.
Oui, des transactions, Traz. Sous la table même, si tu veux. Et on ne l'a pas encore ressenti, mais j'imagine. Enfin, on sait qu'il y a des jeux qui ont été décalés, mais là, c'était le développement qui en lui-même était impacté par la crise du coronavirus, etc. Mais y a des chances aussi pour que, effectivement, des petits studios ne trouvent pas tout de suite de débouchés ou aient toutes les peines du monde à trouver un éditeur parce qu'on ne peut pas se rencontrer justement en face à face et que ça complexifie malheureusement certaines relations. Donc, effectivement, pour ça, je pense que ce serait même plus important que les salons pro reprennent pour cette dimension-là, justement, business, que pour nous, simples consommateurs du média.
Absolument. Donc alors, voilà, désolé des détours du coup, Traz. Hein,
Corona Gaming Show 2021.
Ah putain, copyright l'idée.
Elle copyright ou...
On le fait au ministère de la Santé.
Chiche. En attendant, si on parlait des jeux de 2021 pour finir, bon, il y en a quelques-uns dont on se dit qu'ils vont quand même sortir, mais d'autres, on ne sait pas. J'ai parlé de la Playdate tout à l'heure, mais ça serait bien qu'ils la sortent, mais j'ai l'impression que là, il y a quand même un souci, quoi.
Ah si, ils ont dit, normalement, c'est pour cette année, hein, la Playdate. Ah, ouais.
Ils n'étaient pas pour l'année dernière, déjà ?
Si, oui, c'était pour l'année dernière. Mais ils ont plus de jeux à proposer pour la première saison, a priori, qui devraient arriver cette année. On ne sait pas exactement quand encore.
Après, c'est une curiosité, hein, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Mais,
oui, pour mais c'est un truc.
Je suis vraiment curieux, ouais, de voir ce truc-là.
Bah, t'as jamais joué à la manivelle, quoi, donc...
Oui.
Ça donne envie.
Pour ma part, vu que je commence à parler, je sais pas, moi j'attendais surtout la next-gen en fait, vu que j'ai pas les consoles encore. Donc, pour moi, ça va sûrement être ça, si tout va bien. Et puis j'attends Gran Turismo 7 aussi, notamment. God of War, comme Plume, j'y crois pas trop. Mais
personne y croit, y a pas que moi. Hein. Personne
n'y croit.
Je pense que chez Santa Monica, quand ils ont vu, à mon avis, c'est même eux, ils se sont dit attendez, pourquoi ils ont mis 2021, les cons? À mon avis, il y a dû avoir un coup de fil de Gary Barlog. Mais pourquoi vous avez mis 2021? Vous êtes cinglés, ça va pas, non?
Enfin, c'est fou. Et j'attends un DLC pour Last of Us 2, mais il n'y arrivera pas non plus, tant pis. Encore que, on sait jamais.
Bah, si, il y a des chances, ça.
T'auras le patch next gen.
Il y aura le mode multi qui devrait arriver avec un peu de chance cette année.
Tout à fait. Et vous alors?
Pas dit qu'ils pouvaient en faire une expérience à part entière du mode multi, que leurs ambitions étaient plus importantes que prévu.
Ouais, mais bon, comme ils ont déjà les bases, à mon avis, ça devrait pas leur prendre des milliards de temps non plus.
Chartier, j'ai beaucoup joué en mode multi, ouais, c'était très bien fait. Hein, vraiment. Bon, ça vaut pas effectivement le netcode, comme on dit, d'un Call of Duty et compagnie, mais c'est quand même vachement agréable, quoi. Donc sur Last of Us, ouais, ça serait vraiment sympa. Bah vous, je sais pas, vous la parole, quels sont vos titres que vous attendez le plus?
On en a parlé dans nos tops et flottes, la plupart. Oui, moi, le mien, celui que j'attends vraiment le plus, parce que là, je vois pas comment ils vont pouvoir le repousser autrement, c'est The Last Night. Qu'on a découvert durant un bel E3 il y a quelques années et qu'on n'a jamais revu visiblement ont rencontré quelques soucis durant le développement et ont voulu passer à un moteur peut-être un peu plus un peu plus adéquat par rapport à leurs ambitions aussi. Donc voilà, ça va être un jeu qui fait un jeu d'action aventure en 2D avec un rendu pixel art qui a vraiment quelque chose de très très intéressant, des jeux de lumière qui sont vraiment très intéressants, et Dieu sait que les jeux de lumière sont importants dans un univers cyberpunk. Moi là, pour le coup, ouais, sachant que God of War, j'y crois pas une seule seconde, ça sera le jeu que j'attendrai le plus pour cette année, en espérant évidemment qu'il arrive cette année, même si je peux aussi dire que Hitman 3 me fait un peu d'œil à chaque fois que je le vois un peu plus. Et il sort dans pas très longtemps. On va peut-être l'avoir aussi dans pas très longtemps. Donc, moi, je dis, gardez un œil aussi sur Hitman 3.
Exactement. Voilà.
Vous voici prévenus.
Thomas Lompi, toi, t'attends 12 minutes. Ah, 12 minutes.
Oui, 12 minutes, que j'attends beaucoup. Enfin, je crois qu'il avait fait pas mal d'impression à tout le monde à la rédac quand il avait été annoncé, donc édité par Annapurna. On n'a pas vu grand-chose, si ce n'est une liste d'acteurs qui avait été dévoilée ces derniers mois. Mais le contexte, moi, je trouve que le huis clos, quand on sait raconter une histoire, c'est toujours une base fantastique, justement, pour structurer un récit. Et là, le côté huis clos plus boucle temporelle, plus tout le talent qu'on connaît d'Annapurna pour éditer des jeux de grande qualité, me font l'attendre énormément. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette expérience, même si j'imagine qu'elle sera vraisemblablement assez courte. En tout cas, tout ce que j'en ai vu pour l'instant me donne très, très, très envie d'y jouer, ne serait-ce que dans une version preview. J'ai pu parler, comme Plume, dans le dossier des jeux le plus attendu de 2021, de Deathloop, qui arrivera au printemps, au mois de mai, des Français d'Arcane Lyon, qui, au vu de tout ce qu'ils ont fait, j'ai envie de dire, cette dernière décennie, pour moi, ils partent avec un a priori, mais ultra positif. C'est carte blanche, allez-y les gars, faites ce que vous voulez. De toute façon, je pense que ça sera bourré de bonnes idées, de trouvailles de game design, etc. Donc, même si j'ai des réserves sur des choses que j'ai pu voir dans les différentes présentations qui ont eu lieu, ils ont encore toute ma confiance. Et puis, alors je ne vais pas vous dire que c'est le jeu que j'attends le plus, mais je serais curieux de découvrir ce que vaudra Balan Wonderworld, le prochain jeu de Yuji Naka, parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait un jeu de plateforme 3D comme ça, parce que c'est un genre qui malheureusement tombe en désuétude, sorti de chez Nintendo. Et j'espère, j'y crois pas, mais j'espère qu'il réussira à sortir de sa matrice classique et qu'il arrivera à nous pondre autre chose que le jeu plateforme 3D basique de Yuji Naka, comme il l'a fait avec pas mal de Sonic et de jeux qui sont sortis derrière. Je lui souhaite, puisque maintenant il parle de sa retraite prochaine, de réussir à changer un petit peu la formule, tu vois, et à proposer quelque chose de différent.
Je peux me permettre un truc, Thomas ?
Non.
Ouais, tu sais. C'est dommage parce que Balek Wonderworld, je trouvais que ça lui allait bien. Mais bon, je le dirai pas, voilà, c'est tout.
Mais voilà, je nourris quelque espoir, tu vois, de retrouver Yuji Naka un petit peu en forme. Ça ferait pas de mal.
Eh bien, moi, Resident Evil Village, comme je l'avais dit dans mon top, parce que j'avais été très agréablement surpris par RE7, qui m'a bien plus plu que ce que j'imaginais à la base quand ils ont annoncé un jeu à la première personne. En plus, là, ils ont l'air de vouloir tenter des trucs avec Chris Redfield, un peu chelou. Donc, je suis curieux de voir où va mener l'histoire. Halo Infinite, moi, j'aime beaucoup la série des Halo. J'ai été évidemment, comme beaucoup de gens, refroidi par la présentation de juillet dernier. Donc, j'ai envie d'y croire à un retour en force, à quelque chose d'incroyable quand le jeu va finir par être représenté. Donc là, c'est plus de la curiosité vraiment que de l'attente, même si j'ai qu'un souhait, c'est que le jeu mette tout le monde d'accord et remette Halo sur le premier plan dans le monde des FPS. Je regarde la liste. Gotham Knights. Alors là, c'est quelques crans en dessous en termes de niveau d'attente. Mmh. Mais je fais partie de ceux qui avaient beaucoup aimé Batman Arkham Origins. Je trouve qu'à sa sortie, Arkham Origins avait été un peu taclé de manière injuste. Et à comparer la présentation de Gotham Knights à celle de Suicide Squad, qui est pourtant le prochain Rocksteady, Gotham Knights m'intéresse bien plus qu'un énième Destiny-like avec en plus les personnages Osef du Suicide Squad. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer avec ça, et curieux aussi de faire Disco Elysium. Bon, même si c'est pas vraiment un jeu de 2021, enfin envie de pouvoir y jouer sur console pour voir ce que toute cette hype cachait. Après, ça sera ça mon jeu bonus. C'est le jeu de 2021 de mon studio chouchou, le Ryuga Gotoku Studio, qui n'a pas encore été annoncé. Mais comme ils sortent un jeu par an, on sait qu'ils vont forcément faire un truc cette année. On va dire que j'ai une petite idée de ce que sera ce jeu. Je n'en dirai pas plus, mais bon, j'ai hâte de retourner à Kamurocho.
Dans les jeux de 2020 que j'ai envie de découvrir en 2021 aussi, en plus de Disco Elysium complètement, c'est de Pedestrian aussi, que j'ai très envie de faire, parce que Plume, tu nous en as rabâché les oreilles, je pense à juste titre, parce que j'ai vu, je crois que Poufy avait passé un très bon moment aussi.
J'ai pas fini, mais c'est vraiment très bon.
Et du coup, j'ai hâte que, comme Disco Elysium, il sorte sur console et que je puisse le découvrir.
De toute façon, il y a beaucoup de jeux que déjà, quand même, quand on regarde la liste des jeux de 2021, il y a énormément de choses et très vite en plus, mine de rien. Donc je pense qu'on va pas être malheureux.
Et il y a des choses non annoncées qui vont certainement nous surprendre. Comme à chaque fois, on est loin de savoir tout ce qui va sortir cette année.
Bon, on l'espère, c'est Nintendo.
Et on est loin d'avoir donné la parole à Camille aussi, même s'il n'est pas avec nous tout de suite.
Il est DCP, Camille, lui.
Non, il a juste été très silencieux depuis le début de ce podcast.
Mais on peut quand même citer que sur les expériences exclusivement PC, il y aura Humankind qui s'annonce. Pour les fans de Civilization, ça s'annonce génial. Alors c'est pas une expérience 100% PC, à mon avis, il sortira aussi sur console. Enfin, c'est même pas mon avis, je pense qu'il va sortir sur. Mais Back 4 Blood, le nouveau Left 4 Dead, qui a été un peu essayé vite fait grâce à une version alpha il y a pas très longtemps et qui s'annonce lui aussi absolument démentiel. Bref, il y aura tout ce qu'il faut encore cette année.
Il attend. Oui, exactement. Camille, il attend aussi Knights of the Dragonland. C'est vraiment son jeu numéro un. C'est un RTS absolument incroyable qui se passe au Moyen-Âge. Il l'attend.
Knights in Wonderland. Exact. Il attend surtout plein de cartes graphiques qu'il va devoir tester.
Exactement.
Et me refiler après.
Et des souris aussi.
Des souris, ouais, exactement. Bon, bah voilà, ça fait quand même un paquet de trucs à digérer, à se mettre sous la dent, et on espère que tout ça arrivera dès cette année, n'est-ce pas ? Avec plein d'autres surprises, évidemment, comme toujours, de toute façon. Surtout de la part de Nintendo, en fait. À chaque fois, ils arrivent là où on les attend pas.
Alors, je pense qu'il y aura... Je pense qu'il y aura du Mario.
Et du Zelda.
C'est vrai que Breath of the Wild 2, on n'en parle pas, mais c'est peut-être pour cette année. Peut-être.
Ça serait bien. Oui, c'est possible. Ouais,
ça me paraît crédible. Là où je vous rejoins sur l'impossibilité d'un God of War, je pense que Breath of the Wild 2, vu qu'il a été annoncé en 2019, il y a des chances qu'on puisse y jouer cette année, même s'il faudra peut-être attendre la fin de l'année. Ouais, le moteur, les assets, il possède quand même pas mal de trucs. Et puis, il va bien falloir occuper aussi un peu les joueurs. Donc, pour fin 2021, moi, j'y crois.
Je pense que c'est jouable, tout à fait. Tout à fait. Voilà, écoutez, si vous avez autre chose à ajouter en attendant...
2021, l'année d'Uncharted, le film, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Ouais, ça me fait toujours un petit peu peur, ça. Je préférerais qu'il fasse un autre jeu plutôt qu'un film.
Mais non, tu vas adorer, en plus, ça va être ton
jeu. Mais il prend un autre jeu, Traz. Rassure-toi.
Un autre jeu Uncharted, tu veux dire ?
Mais oui, c'est sûr.
Ah, j'adorerais, moi.
C'est sûr, mais je te le promets. Voilà, je te le promets.
Oh là ! Carrément.
I promise.
Il n'a pas juré.
Je ne sais pas avec qui il sera en personnage principal, parce que pour Nathan Drake, ça me semble un peu... à moins qu'il fasse un autre préquel ou un truc comme ça. Mais je ne vois pas comment Naughty Dog et Sony pourraient se passer d'Uncharted.
Je pense aussi, ouais, c'est quand même une sacrée licence. Hein.
Ils sont passés de Crash Bandicoot, et après ils sont passés de Jack et Dexter. Tu sais, donc tout est possible.
Et qu'ils fassent autre chose, c'est très bien aussi.
Et là, ils te font un jeu de rythme kawaii, carré.
Exactement.
Rien à voir avec ce qu'ils ont fait jusqu'à...
Histoire de décompresser à mort, tu sais, après les années de crunch.
Pourquoi pas. Mais un jeu de rythme kawaii, quadruple A, avec 2000 personnes
évidemment.
Qui auront bossé dessus comme des chiens. Et voilà.
Ah, c'est sûr que voir le générique des fins de jeu Naughty Dog, c'est waouh.
Si c'est avec un système d'orchestre en streaming, genre un orchestre en stand-by qui joue au moment où tu appuies sur la touche, révolutionnaire.
Exact. Ça donnera du boulot aux musiciens qui en manquent très cruellement en ce moment.
Ah bah là, pour le coup, ouais, ils peuvent tous se tourner vers le jeu vidéo. Hein, c'est là où ils embauchent. Là, ils peuvent faire des choses. Effectivement. Eh bien, messieurs, merci beaucoup
pour
votre temps et votre surprise.
Et encore bonne année. Hein.
Et encore bonne année à toutes et à tous.
Comme qui a des si jolies décorations chez toi en plus, ça va te faire mal de les retirer, j'imagine, hein, maintenant qu'on va passer les fêtes.
Hein. J'ai toujours mon sapin qui est encore là, donc je vais l'enlever ce week-end, mais j'aime bien le sapin, moi, tant qu'il reste un peu. Une fois, je l'avais enlevé au mois d'avril, je crois.
Ok, merci.
Il n'y a plus que les branches.
J'avais mis 4 mois à l'enlever, il me semble. Mais bon, c'est pas grave, il ne me dérange pas.
Ouais, parfait. Décaché, il se sentait plus très bien. Il était
fatigué. Non, mais moi, c'est un sapin en plastique que j'ai depuis 15 ans.
Ah oui.
Il risque pas de sentir. Bon, les amis, merci beaucoup.
Mon cher Traz.
Merci à Poufi et la Technicos. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, évidemment, pour un autre podcast de la rédaction.
Puis dites-nous quel jeu vous attendez le plus, vous aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Dans les commentaires et tout ça.
Balan Wonderworld, hein, je pense que ça va être le plébiscite.
Tu connais Boogie Wonderworld, Wonderland?
Non, mais laissez-moi espérer un petit peu.
Non, mais sincèrement, j'aimerais bien qu'il soit bon.
Voilà.
Parce que des jeux comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Donc j'espère, mais je doute un peu.
Hopso, le nouvel espoir 2021, rappelez-vous.
Eh ouais.
Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écouté encore ce podcast, de nous avoir regardé avec nos tronches bizarres. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Si vous êtes vacciné, c'est très bien. Je suis pas pro-vaccin, hein, mais bon, voilà, vous faites ce que vous voulez.
Et Richard Berry, si tu nous regardes,
voilà.
On est avec toi.
Tu viens quand
Richard
tu veux.
Richard Berry et Olivier Véran. Hein.
Ouais. Ouais, absolument.
Tout à fait. Allez, on se quitte ici et puis on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, jouez bien, portez-vous bien. Et encore une fois, tous nos meilleurs vœux pour cette année 2021.
Et là, ciao, continue. Toujours les enfants.